Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire. Aidez Radio Courtoisie à rester libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque de soutien à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris.
Nous sommes avec Anne Sicard, députée IDL. Nous venons de parler longuement de la commission à l'oncle dont le rapport devrait intervenir d'ici quelques jours et de toutes ses conséquences. Mais ce n'est pas votre seul sujet, Anne Sicard. Vous avez aussi parlé du référent EVARS. Alors le référent EVARS, ça veut dire espace de vie affective, relationnelle et sexuelle. Et ce référent, il est chargé de donner la bonne parole sur la sexualité. Non, sur l'IVG ou les maladies sexuelles. Expliquez-nous et pourquoi est-ce que vous vous êtes élevé contre le rôle de ce référent ?
Alors, je me suis élevée contre plusieurs scandales chez EVARS, effectivement, dans le cadre d'EVARS, hein, qui effectivement, alors c'est soit espace, mais c'est soit éducation à la vie affective relationnelle. Et sexuel. Alors normalement, il n'y a pas sexuel pour les petites, pour les maternelles et l'école élémentaire. Il faut savoir que lorsque vous allez sur education.gouv, vous avez le programme EVARS qui est publié, et ils disent bien que pour les maternelles et l'école élémentaire, il n'y a que les questions liées à la sexualité ne sont pas abordé. C'est pour ça que lorsque on questionne en fait les syndicats ou enfin dans le milieu de l'éducation nationale, on dit ah non mais c'est pas EVARS pour la maternelle et pour l'élémentaire, c'est EVAR parce qu'il n'y a pas sexuel. Or, j'ai levé plusieurs lièvres dans cette affaire. D'abord, nous avons dénoncé avec mon collègue Roger Chudeau le livre le plus important du monde.
Ancien inspecteur de l'éducation
Exactement.
Nationale.
Exactement. Le livre le plus important du monde, qui était un livre qui est mis à disposition en fait, dans les CDI ou enfin, dans toutes les bibliothèques où les enfants... Et puis qui est aussi utilisé par certains intervenants EVARS, dans lequel... et que c'est un livre qui est pour les petits, hein, pour les 6, cette fois, c'est pour les petits. Et donc, nous avons interpellé le ministère en disant, mais comment se fait-il que ce livre, qui est un livre qui est vraiment avec des dessins très parlants, qui parle de sexe, qui parle d'un certain nombre de choses. Donc, on leur a dit, mais comment pouvez-vous, monsieur le ministre, laisser ce livre à disposition dans cette ligne ? Il nous a répondu qu'en fait, il ne pouvait pas interdire ce livre, il ne pouvait pas empêcher qu'il soit à disposition dans les CDI, mais qu'il allait relever l'âge. Donc, ça serait juste à 9 ans. On pourra pourrir les enfants à partir de 9 ans, pas de problème. Ouais. Ensuite, j'ai fait un article 40 pour...
Rappelez-nous.
Alors, un article 40, l'obligation, en fait, selon l'article 40, on a une obligation...
Du code de procédure pénale.
Voilà, pour de dénoncer la mise en danger ou, en fait, un contrevenant à la loi aux autorités concernées. Donc, une enseignante de maternelle, hein, dont j'ai oublié le nom et c'est pas très grave, dans une interview, dans une émission d'une télé sur le net, en fait, une intervenante de maternelle, hein, donc maternelle, c'est 3-5 ans, se vantait en fait de parler d'autostimulation chez les enfants, du plaisir, en fait de la masturbation, en fait, les enfants de maternelle. Alors
incroyable.
Que donc c'est doublement
3 à 5 ans.
Voilà, c'est-à-dire qu'on confie ses enfants à l'institutrice en pensant qu'ils craignent rien. En fait, en tout cas, ils sont à peu près en sécurité. Eh ben non, on a quelqu'un qui vient leur parler de masturbation. Et finalement,
les gens sont quand même des grands malades.
Oui, ils sont des grands malades. C'est des grands malades. Et donc finalement, un des derniers scandales, c'est effectivement le référent EVARS, un référent EVARS de Lozère. Qui devait intervenir auprès des enfants et
qu'il avait été condamné.
Alors voilà, on a découvert en fait et c'est pas moi qui l'ai découvert, hein, c'est pas mon équipe, c'est en fait Mediapart, c'est même pas une enquête interne qui a découvert de l'éducation nationale, c'est Mediapart qui a découvert qu'en fait ce référent EVARS de Lozère avait été condamné pour détention d'images pornographiques en 2014, je ne sais plus. Et donc, cet homme allait intervenir auprès des enfants. Donc évidemment, il a été suspendu immédiatement. Et nous avons évidemment interpellé le ministre là-dessus pour dire comment se fait-il que vous n'ayez pas consulté le fameux fichier judiciaire des informations, des infractions des auteurs sexuelles ou violentes. Ouais. Mmh. Et en fait, le ministre nous a répondu, mais en fait, on l'a consulté, mais il n'était pas inscrit.
Non, mais c'est extraordinaire.
Donc cet homme n'était pas inscrit. Mmh. Alors nous avons cherché pourquoi il n'était pas inscrit. Ben parce que sa condamnation était une condamnation de moins de 5 ans. Et donc à ce moment-là, c'est à la discrétion du juge.
C'est-à-dire qu'il avait été condamné à moins de 5 ans.
À moins de 5 ans.
D'emprisonnement.
Voilà. Donc ouais. C'est à la discrétion du juge de savoir s'il l'inscrit ou pas.
Ah non, mais c'est extraordinaire.
Donc là, évidemment, il n'y avait aucun moyen pour l'éducation nationale.
Voilà,
donc
on se dit, mais
combien d'autres intervenants EVARS
bien sûr.
Peuvent être mis en contact avec nos enfants alors qu'ils ont eu une condamnation.
Des condamnations.
Voilà. Donc c'est pénal. Voilà, donc
vous dénoncez une forme de légèreté, hein, j'ai noté, et vous appelez à un renforcement de l'arsenal judiciaire pour protéger les enfants.
Exactement. Alors, quand il y a un doute, en fait, il doit profiter à l'enfant dans cette affaire.
Voilà. C'est extraordinaire. Yves-Marie Sevilla.
Madame la députée, on voit que les condamnations, enfin les éléments peuvent arriver en cours de carrière. Donc, ce qui semble effectivement être une vraie complication, c'est que vous avez le ministère vous a répondu qu'il y a un contrôle qui est fait lorsqu'une personne passe un concours, lorsque un contractuel est embauché, mais bon. Carrière, ça dure 40, 50 ans. Et donc, effectivement, il faut vraisemblablement, et c'est ma question, augmenter les contrôles ou les rendre systématiques
et réguliers, en fait.
Pendant la carrière.
Pendant la carrière, exactement. Et bien, il faut demander à ce qu'il y ait ce fameux certificat d'honorabilité qui soit refourni avec le casier judiciaire et puis, encore une fois, ce contrôle d'inscription. Non-inscription plutôt au FIGES pendant durant la carrière et puis aussi que si l'inscription au FIGES n'est pas faite, il faut que le juge puisse au moins motiver le fait de ne pas le faire. Pourquoi ne pas ? Alors parce que là on part dans du droit, c'est plutôt Damien Chalamet qui pourra répondre, mais il y a l'affaire de l'individualisation de la peine et ça, donc il y a tout un problème juridique à soulever.
On se retrouve avec des profils hallucinants près d'enfants extrêmement jeunes.
C'est ça qu'on a demandé la suspension en fait du programme EVARS.
Hein, du fameux programme EVARS. C'est Damien Chalamet.
Pour prolonger, mais la question de fond moi, que je me pose en vous écoutant, c'est quelle est la raison d'être finalement à notre époque, à la mienne, on parlait d'éducation sexuelle, je crois que ça s'appelait comme ça. Il devait y avoir quelques heures consacrées en sciences naturelles, c'était très physiologique.
Absolument.
Bon, mais rétrospectivement et encore maintenant, je me pose la question, est-ce que foncièrement, c'est du rôle de l'école que de s'occuper de ces questions-là? Enfin, c'est toujours la même question. Et là, ça va au-delà de savoir qui prodigue ces formations. Alors, a fortiori, quand ce sont des intervenants fumeux d'associations, comme par hasard... on voit très bien dans quel milieu ces associations naviguent. Mais moi, c'est la question que je m'en pose. On est en train de chuter dramatiquement dans tous les tests PISA et autres, et on en est là à dépenser effectivement de l'argent, des formations. Pour former à la vie sexuelle et relationnelle.
C'est vraiment indispensable? C'est une question qu'on peut vous poser aussi à Roger Chudeau.
Oui, en effet. Alors, c'est vrai que moi aussi, j'ai connu les cours en sciences nat. C'était la même chose, effectivement. Mais ça, le problème, c'est que c'est une loi. En fait, c'est une loi depuis 2001. C'est une loi de 2001 qui a imposé l'éducation, enfin, une éducation sexuelle. Auprès des élèves à raison de trois séances par an. En effet, on peut se poser la question, encore une fois, bien sûr, on est d'accord, surtout avec un programme tel qu'EVARS, qui lui n'est mis en place que depuis
septembre
2025.
Donc vous nous rassurez, en 2027, c'est fini. Quoi,
tout ça. C'est ça. C'était ma question.
On remettra ça en question.
2027, on verra.
Damien Chalamet lui a appliqué.
Dernière question, Anne Sicard. L'interdiction du voile dans les conseils municipaux. Vous êtes aussi battu là-dessus. Donc, commission audiovisuelle, les bars, le voile dans les conseils municipaux, vous ne manquez pas de chevaux de bataille, on dirait. Et vous avez donc présenté une proposition de loi pour interdire le voile islamique et tous les signes religieux ostentatoires dans les conseils municipaux et pour protéger nos maires face au prosélytisme islamique. Ça ne me paraît pas superfétatoire. On l'a vu notamment avec une affaire à Chalon-sur-Saône. Quel accueil est-ce que vous avez eu avec cette proposition de loi ?
Alors, un bon accueil du côté RN et UDR, évidemment, enfin, dans le groupe auquel j'appartiens, le groupe RN, évidemment. Alors maintenant, parce que bon, tout est parti, voilà, des élections municipales, où on a vu les villes qui sont tombées dans l'escarcelle de LFI, et puis les villes où ont été élus des conseillers municipaux LFI. Une des actions immédiates, c'était un prosélytisme communautaire et religieux avec des élus voilés. Alors, en particulier à La Courneuve, où le maire a nommé carrément une maire adjointe voilée. Ensuite, dans les conseils municipaux où il n'était pas majoritaire, il y a eu cette revendication également. Alors, à Meaux, on a vu une conseillère municipale voilée. Ça a été dénoncé par ma collègue Béatrice Rouleau, du RN, et Jean-François Copé a eu plusieurs réactions. La première, c'était « ça ne me dérange pas, enfin, c'est pas grave ». La deuxième, « c'est trop tard ». Il fallait le faire il y a 25 ans. Et maintenant, il dit « Ah ben, je ne l'ai pas fait parce qu'en fait, il n'y a pas de loi. Et que ce serait contraire à la loi si je prenais un arrêté qui empêchait le port du voile dans les conseils municipaux. »
Les habits de la soumission.
Voilà, exactement. Donc, il y a eu d'autres réactions, en particulier celle de Gilles Patré, le maire de Chalon-sur-Saône, qui lui a pris un arrêté pour empêcher le port du voile, encore pour interdire le port du voile. Une décision qui a été arrêtée, qui a été... attaqué par deux élus LFI, dont une voilée, mais le juge des référés de Dijon n'a trouvé rien à redire et il n'a pas cassé l'arrêté. En revanche, en 2024, dans la commune de Voiron, le même arrêté avait été pris et là, le tribunal de Grenoble avait cassé l'arrêté du maire pour des raisons...
Comme quoi, c'est vraiment un combat.
Donc voilà, donc en fait, donc on ne sait pas pour le moment si l'arrêté du maire de Chalon-sur-Saône ne sera pas cassé par le Conseil d'État. Enfin voilà, donc les maires sont seuls. En fait, les maires qui résistent à l'entrisme islamiste sont seuls. Et donc on ne peut pas laisser... Il y a une forme de flou, de vide juridique qu'il faut combler. Absolument. Parce que là, à ce rythme-là, en 2010, il y avait une candidate du Vaucluse qui s'était présentée sur ses affiches voilées. Alors, ça avait fait pousser des cris d'orfraie à toute la gauche et à l'extrême gauche. Hein. C'était du PS, PC, Marie-Georges Buffet, et même Mélenchon avait dit c'est pas possible. Et maintenant, c'est LFI qui présente des élus voilés. Donc, on se dit, bon, bah, dans 16 ans, enfin, dans 10-15 ans, on en sera où? On aura des maires voilés qui célébreront des mariages. On aura, parce que c'est des officiers d'état civil, faut pas l'oublier. Un maire, c'est le représentant de l'État. Donc, où on aura des maires qui vont diriger des cérémonies officielles le 11 novembre, voilés. Donc, il faut arrêter, en fait. L'élu public, dans le règlement de l'élu local, doit respecter la liberté. L'égalité, la fraternité, mais aussi la laïcité. Donc, il était temps, en fait, de bloquer l'islamisme qui avance un petit pas.
Quelle a été la réaction de la droite parlementaire, comme on dit ?
Pour le moment, la droite
Pour le moment,
justement, parce qu'ils ont fait beaucoup de déclarations sur les réseaux sociaux en se scandalisant du port du voile dans les conseils municipaux. Donc, moi, je les appelle, Wauquiez, effectivement, puisqu'il est président du groupe Droite Républicaine à l'Assemblée, Retailleau, président des LR, Lisnard, président de l'Association des maires de France. Donc, je les appelle à mettre en cohérence leurs déclarations et leurs actes, et qu'ils signent, qu'ils disent en tout cas aux députés LR de signer, de co-signer ma proposition de loi, et les autres qui ne peuvent pas co-signer parce qu'ils ne sont pas députés, de signer la pétition non aux élus voilés que j'ai mis en ligne. Alors, parce que là, actuellement, nous sommes dans cette PPL, c'est la ligne de partage des eaux entre ceux qui veulent vraiment lutter contre l'entrisme islamique et les autres qui parlent et qui ne font rien.
Très important.
Depuis des années. Voilà, donc là, c'est maintenant. Je les appelle.
Voilà, l'appel est lancé sur
on vous souhaite bon courage.
Radio Courtoisie, Damien Chalamel, dernière question.
Qu'est-ce que vous disent les constitutionnalistes sur la constitutionnalité de, de votre proposition de loi qui, moi, je vous le dis comme je le pense, m'apparaît délicate à mettre en œuvre. Au moins, alors non pas justement ce que les élus, comme vous l'avez justement rappelé, assument des fonctions au nom de l'État, quand ils sont officiers d'état civil, quand ils célèbrent des mariages, etc. Maintenant, je crains que le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel considèrent que le principe de neutralité ne s'applique pas aux élus. Voilà, c'est ce que je veux dire. Sauf bien évidemment, ne s'applique pas aux élus dans la plénitude de leurs fonctions. Alors bien évidemment, il y a des cas de figure où là, on pourrait considérer que, au même titre que les fonctionnaires, ils sont astreints au devoir de neutralité.
Exactement.
En particulier lorsqu'ils célèbrent, par exemple, des mariages. Mais lorsqu'ils sont élus du type, je ne sais pas, moi, participer à un conseil municipal, je vois difficilement le Conseil constitutionnel approuver une loi qui leur interdirait de faire état de signes fustiles ostensibles. Bah, suivez mon regard, parce qu'en réalité, c'est du voile islamique dont on parle. Mais oui. Est-ce que vous avez étudié la question
Parce que les carmélites, les concernent.
Non, mais puis c'est différent. Mais voilà. En tout cas, oui, c'est effectivement une possibilité. Mais ça sera quand même étonnant, parce que ce serait le port du voile, l'autorisation du port du voile, ce serait vraiment une atteinte très grave à la neutralité du service public. Très grave.
Oui, c'est ça.
Je vois pas comment ils vont entrer.
Dans les cas de figure où l'élu, effectivement,
l'élu fait ça. C'est son rôle, c'est la continuité de l'État. C'est le représentant de l'État dans les communes,
d'accord,
dans toutes les...
Mais pas tout le temps. Lorsqu'il siège au conseil municipal, il ne représente pas l'État, il représente lui-même.
La commune.
La commune. Allez, je voulais laisser la parole pour terminer à nos auditeurs qui ont fait quelques commentaires et questions toujours intéressantes. 4 milliards pour l'audiovisuel, c'est beaucoup, mais combien cela fait-il par téléspectateur et par contribuable? Alors, il faudrait diviser par le nombre de foyers fiscaux.
Je pense que c'est très intéressant.
Philippe Charlez sort la calculette et c'est le plus scientifique d'entre nous. On va attendre la réponse. Voilà. Oui, mais vous n'avez pas le nombre de foyers fiscaux, là vous faites par le nombre d'habitants.
J'ai le nombre de foyers fiscaux.
Il a le nombre de foyers fiscaux, il est extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas ministre des Finances. Alors, où peut-on signer la pétition Stop Evars, nous demande un autre auditeur en dehors de Facebook. Sur quel site?
Alors, sur le site d'Identité Liberté, sur mes réseaux sociaux, donc vous le trouvez sur Facebook, sur Twitter... Je pense même dans les textes
sur les réseaux sociaux, sur le site d'Identité Liberté.
Voilà. Ça fait un peu plus de 100 euros par foyer fiscal.
Voilà la réponse de Philippe Charlez. Voilà ce que coûte l'audiovisuel public par foyer fiscal. Et ben c'est pas rien du tout. Voilà. Et par an, j'imagine.
Bah oui, les 4 milliards,
évidemment,
c'est par an.
Les 4 milliards, c'est par an. question d'un auditeur. Monsieur Niel, n'est-il pas un créateur, un pionnier, un phare avancé de la civilisation occidentale? Il y a un peu d'ironie. N'a-t-il pas fait sa fortune initiale en créant une innovation majeure, un serveur Minitel Rose qui rapprochait fortement les gueux et scellés?
En effet, on le sait.
Ça fait un peu penser à Soros, c'est-à-dire le mariage du capitaliste pur et dur avec une espèce de gauche moralisante qui détient le bien elle toute seule.
Oui, mais alors c'est ça qui est...
C'est complètement contradictoire.
Tout à l'heure.
C'est assez d'ailleurs extraordinaire de voir pendant les commissions, pendant la commission d'enquête, de voir l'extrême gauche qui se dit défendre le petit peuple, les opprimés, etc. Mais être se dresser pour défendre la gauche caviar, en fait, le grand capitaliste de gauche. C'était assez étonnant.
Alors, Nagui s'appelle femme, nous dit un auditeur.
Oui, c'est vrai.
Il se fait appeler Nagui, pas peur d'être l'objet de Colibé. Et peut-être, il faudra lui demander, mais il n'est pas le seul animateur à avoir des noms d'emprunt. Est-ce que supprimer l'école mixte filles-garçons ne résoudrait pas cette obligation d'éducation sexuelle? On reste dans le sujet Evars. Anne Sicard.
Bon, je ne pense pas. Si ça devait être fait, je ne pense pas que ça changerait beaucoup l'obligation, enfin, pour le moment qui existent en encore d'éducation
sexuelle. En tout cas, ceux qui poussent les VARS ne sont pas pour la séparation de l'école.
Pas vraiment.
On tourne en rond. Voilà, une mère voilée célébrant le 11 novembre. Êtes-vous certaine de ne pas vous tromper de 2 mois? Mais ne voulez-vous pas casser le thermomètre, nous demande un auditeur, je ne suis pas sûr de comprendre très bien.
Conserver les mères voilées pour constater l'état d'envahissement de notre pays. Politique du pire, en quelque sorte.
Voilà, allez, 2 derniers messages. Pour en revenir à Radio France, j'ai remarqué depuis quelques mois que sur France Info, alors ça c'était à propos de la petite actualité sur Radio France. On peut entendre la diffusion de messages publicitaires à caractère commercial. Si France Info diffuse des messages publicitaires à caractère commercial, cela peut signifier que cette station de radio bénéficie moins de ressources provenant de l'État. Qu'en pensez-vous? Alors, j'en pense que oui, il a tout à fait raison, cet auditeur. Il y a une partie Radio France, parce que c'est pas France Inter, c'est vraiment Radio France, bénéficie d'une partie de ses revenus qui vient de la publicité. C'est quelques centaines, 100 ou 200 millions, quelque chose comme ça, autour de 200 millions d'euros. Mais c'est très inférieur à ce que donne l'État, qui donne de mémoire autour de 600 ou 650 millions d'euros à Radio France pour tourner. Ça diminue un peu le coût, la publicité, mais l'État donne la plus grosse partie du budget de Radio France. Voilà. On va passer à la deuxième partie de notre rendez-vous avec une enquête de Boulevard Voltaire, une politique dévouée à la cause du financier Georges Soros. Elle s'appelle Nathalie Loiseau et c'est une formidable enquête. L'auteur Samuel Martin sera avec nous dans un instant. Voilà une petite musique en transition. Nous aurons tout à l'heure notre clin d'œil culture, mais auparavant, une enquête de Boulevard Voltaire, une politique dévouée à la cause du financier Georges Soros, Nathalie Loiseau, la très macroniste Nathalie Loiseau, s'est réjouie bruyamment sur Twitter de la défaite de Viktor Orban en Hongrie. La chef de file des députés macronistes ne rate jamais, vous le savez, une occasion de justifier la politique de l'Union européenne, de tirer sur Viktor Orban ou de vanter les hauts faits de son mentor en politique, un certain Emmanuel Macron. Cet alignement remarquable surprend moins lorsqu'on lit la grande enquête que Samuel Martin, éminent rédacteur en chef à Boulevard Voltaire, consacre au Conseil européen des relations internationales. On dit, il faut le citer en anglais parce que c'est le vrai sigle, European Council of Foreign Relations, et ce qui explique le sigle ECFR, on ne rit pas de mon accent. Alors c'est un think tank, encore un mot anglais, pardon, donc un groupe de réflexion. Un groupe de réflexion méconnu et très influent.
La traduction, c'est réservoir d'idées.
Et voilà.
Laboratoire.
Qui est lié, ce réservoir d'idées, lié à Georges Soros. Samuel Martin, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints. Bravo, franchement, pour ce travail qui est vraiment exceptionnel. Il faut absolument le lire sur le site de Boulevard Voltaire. On le sait, Georges Soros est d'origine hongroise. Il est très impliqué depuis des années dans la lutte anti-Orban en Hongrie. Et comme par hasard, Nathalie Loiseau s'est elle aussi beaucoup impliquée avant le scrutin de dimanche dernier. Et pour cause, elle fait partie de cet organisme qui est étroitement lié à la sphère Soros. Alors, première question. question, Samuel Martin. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé en particulier à Nathalie Loiseau ? Ce n'est pas un personnage central de la politique française,
non, c'est
Emmanuel
sûr.
Macron. Qu'est-ce qui a attiré votre
attention ? Je pense que beaucoup de Français ont oublié qu'elle avait été ministre des Affaires européennes en 2017-2019.
Moi-même, je l'ai oublié.
Voilà. Avant de conduire la liste macroniste aux européennes, en 2019 donc, et de se prendre une certaine humiliation, puisque la liste RN était arrivée devant.
Ouais.
Bref, depuis, elle est eurodéputée. Et ce qui est intéressant, c'est que cette eurodéputée tweet énormément. Donc, c'est difficile d'échapper à ces messages quand on consulte Twitter. Assez rapidement, moi, ce qui m'a frappé, c'était ce que j'appelle, oui, une obsession anti-Orban. C'est-à-dire que ça ressemblait par moments, et en particulier pendant la campagne des législatives, là, au mois de mars, début avril, ça ressemblait vraiment à du matraquage contre le gouvernement hongrois, contre Orban. C'était une quinzaine de tweets en mars, presque autant dans les 10 premiers jours d'avril, sans compter tous les retweets, sans compter les vidéos qu'elle mettait de ses interventions au Parlement européen. Donc c'est ça, ça m'a intéressé.
Donc un activisme
effrayé.
Oui,
voilà, j'ai voulu en savoir plus.
Anti-Orban. Elle fait partie, donc vous avez découvert qu'en fait elle fait partie d'un organisme, ce fameux ECFR, qu'est-ce que c'est que cet organisme ? Expliquez-nous.
Alors, c'est un think tank, donc, comme on disait, un laboratoire d'idées, un réservoir d'idées. Il faut savoir qu'on en compte en Europe à peu près 3000. Voilà, à peu près 3000 think tanks. C'est une espèce de niche, de grosse niche en tout cas, qui œuvre comme ça.
C'est des groupes de réflexion avec des gens un peu chics, généralement.
Oui, qu'on connaît pas, ça dépend, mais qui s'active à essayer d'influencer la marche du monde. Le CFR, il a été fondé en 2007, et ce qui est intéressant, il a été fondé avec l'argent des Open Society Foundation de George Soros.
Donc c'est l'organisme de George Soros.
C'est l'organisme de George Soros, il en est membre. Son fils Alexander, qui est président du conseil d'administration des OSF, est membre du staff expert de l'ECFR.
De l'équipe de tête,
Alexandre
Soros. Qu'est-ce que ça veut dire, voilà, ECFR ?
Oui, je vais le redire en français, c'est le Conseil européen des relations internationales. Voilà, vous avez des
Donc c'est un titre
think tank
très neutre.
Oui, alors les think tanks, quand
Donc
vous regardez un petit peu...
ça ressemble un peu à l'IFRI en France.
Vous avez toutes sortes de noms.
Institut français des relations internationales.
Qui ne sont pas très révélateurs en fait en eux-mêmes. Il faut aller chercher pour voir un petit peu ce qui se cache derrière ces étiquettes.
C'est ça. Mais alors là, en l'occurrence, donc, il y a un lien direct, puisque le fils Soros est donc à la tête de cet organisme.
Hein, oui.
Voilà. Et donc ça, c'est le lien direct. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente, cet organisme ? Il y a combien de membres ?
Alors, il se revendique comme le premier think tank européen, avec près de 330 membres sur toute l'Europe. Des prestigieux, des chefs d'État, d'anciens chefs d'État ou de gouvernement, des ministres, des parlementaires. Vous avez le
12
président
chefs d'État et de gouvernement, 18 ministres, vous disiez, c'est incroyable.
C'est ça, c'est leur statistique propre. 53 parlementaires, des commissaires européens, il y a l'ancien président d'Estonie, le président de la Finlande qui en fait partie, etc. Enfin, on pourrait développer ça longuement. Et ils ont comme raison sociale de mener des recherches indépendantes de pointe sur la politique étrangère et la sécurité européenne.
Voilà, alors tout ça, c'est un paravent, évidemment. C'est un groupe activiste mondialiste extrêmement puissant et surtout très, très bien fréquenté. Il y a plein de membres français, notamment.
Il y a beaucoup de Français. Il y a Nathalie Loiseau. Il y a aussi Amélie de Montchalin, présidente de la Cour des comptes. Elle faisait partie de l'ECFR avant. Elle est restée à l'ECFR après avoir été nommée à la Cour des comptes. Vous avez un petit peu des stars de l'ancien monde comme Guigou et Okrent, et beaucoup de macronistes qu'on ne connaît pas dans le grand public, mais des proches du président, des diplomates, d'anciens ministres.
Voilà, c'est le lien,
beaucoup de diplomates et d'anciens ministres en général.
Ouais, c'est ça. Hein. Et alors, oui, Damien Chalamet.
Oui, alors, y a-t-il un lien, mais je n'ai pas l'impression, avec le Council on Foreign Relations, c'est-à-dire le conseil, genre la traduction en français, ce serait des... Conseil des relations étrangères, hein, Council on Foreign
aux
Relations,
États-Unis.
qui était alors, cette entité très connue,
a priori,
qui est vraiment une des entités du mondialisme.
Je ne sais pas s'il y a un lien direct, mais le CFR veut être un peu l'équivalent de le CFR américain aux États-Unis, et eux veulent être l'équivalent en Europe. Voilà.
Alors, d'accord. Samuel Martin, dites-nous, cette CFR, pourquoi est-ce qu'il pose problème finalement, hein?
Bah, il pose problème parce que on le voit bien avec l'action de Nathalie Loiseau sur les réseaux. Il dit qu'il fait de l'influence. Enfin, Nathalie Loiseau reconnaît faire de l'influence et elle passe beaucoup de temps à dénoncer les ingérences. Influence, quand est-ce que c'est de l'ingérence, quand est-ce que c'est du lobbying, tout ça, c'est pas, ça dépend un petit peu de l'endroit où on se place,
ouais,
du point
ça.
De vue où on se place. On pourrait considérer que Nathalie Loiseau fait de l'ingérence. Elle va dire qu'elle fait de l'influence. Et puis, surtout, on voit bien que c'est, en fait, pour un think tank, vous avez des think tanks qui sont assez productifs en documents, en études, en rapports, sur lesquels on peut s'appuyer, sur lesquels on peut discuter, mais qui apportent quelque chose au débat intellectuel. Quand on se penche sur le site de l'ECFR, on tourne un petit peu en rond avec des articles intéressants, mais qui ne sont pas vraiment des choses, des études de fond sur lesquelles, auxquelles on pourrait trouver un intérêt.
Et puis surtout, il y en a très peu.
Il y en a très peu. Il y en a très peu, puisque il y en a 5 ou 6 sur les 5 dernières années d'études de fond. Alors après, vous avez une multitude d'articles, mais qui ressemblent plus à des articles de presse, ou à des articles d'humeur. Le travail intellectuel
des parents, on met en avant
330 cerveaux.
Et tout ça pour un budget de...
Le budget, on ne le connaît pas exactement. On ne le connaît pas exactement, mais en tout cas, il est élevé. Et beaucoup de gens, abondent.
De nombreux think tanks que je connais rêveraient, qui sont pourtant très productifs
d'avoir des fonds.
En études. Bon, moi, j'ai fait partie de l'Institut Sapiens qui produisait de nombreuses études. On peut citer le Millénaire aussi, qui sont des think tanks. L'IFRAP, qui est un think tank très productif en termes d'études, rêverait certainement des quelques millions d'euros dont bénéficie ce think
donc,
tank.
Non, mais ce qui est important, c'est que, et Yves-Marie Sevilla, je vous donne la parole juste après, c'est qu'il y a très peu de production, et donc vous dites, en fait, à quoi ils servent, quoi, hein, c'est ça.
Oui,
c'est là qu'on soulève un petit peu le
à quoi ils servent,
problème.
Oui, oui, exactement, qu'est-ce qu'ils font là-dessus, quand on interroge des gens qui connaissent un petit peu le milieu européen, moi j'ai pu interroger l'eurodéputé Mathilde Androuet, également Grégoire Poupinck.
Mathilde Androuet, eurodéputée RN.
Voilà, hein, tout à fait. Eux, ils me disent, évidemment qu'ils sont là, pour faire de l'influence auprès de la Commission européenne, voire de l'ingérence, puisque, on le sait, Soros a voué une haine certaine à Orban, pour des différences politiques. Orban le lui a bien rendu, d'ailleurs. Mais voilà, Soros cherche, il ne s'en cache pas, à agir directement dans certains pays pour installer ce qu'il appelle les sociétés ouvertes.
Donc sans frontières, avec immigration au maximum.
Et donc ça, il ne s'en cache pas, hein, d'agir comme ça. Il donne pas de l'argent pour faire du bien autour de lui. Il donne de l'argent à des organismes pour changer les choses.
C'est ça, pour aller dans ce sens-là.
Oui, tout à fait.
Donc c'est un gros lobby, hein, c'est encore un mot anglais, pardon, mais c'est un énorme lobby complètement entre les mains de Georges Soros, auquel Nathalie Loiseau participe. Alors, elle répond hein, quand même, hein, vous lui avez posé la question et de savoir si elle était là et à quoi elle servait et ce qu'elle faisait, et elle vous a répondu.
Oui, hein. Oui, tout à fait. Elle nous a dit qu'elle nous a bien précisé qu'elle n'est pas employée par le think tank, hein, que son activité est bénévole. Elle m'explique que les membres du conseil apportent leur expérience, Ils sont sollicités pour participer en tant que panélistes aux conférences organisées où ils expriment leur point de vue personnel. Voilà. Donc, elle intervient dans des conférences. Et
tout ça est quand même extrêmement fumeux. Hein.
Oui, c'est, on ne veut pas être...
on est vraiment dans les machins qui entourent vague, l'Union européenne et qui tirent les ficelles avec des tas de gens.
Et puis c'est pas j'aime autant vous dire que ce n'est pas le seul.
Charles.
Ça n'est pas le seul.
Ah bah c'est sans doute pas le seul.
Il y en a...
Bien sûr, hein, je vous disais au début...
Je crois qu'il y a 50 000 lobbyistes à Bruxelles.
Voilà, et il y a à peu près 3 000 think tanks répertoriés en Europe. Donc vous voyez l'activité... qui se fait.
Moi, ouais, ce qui m'a frappé dans votre article, ce qui m'a profondément gêné, au fond, c'est que les États et la Commission elle-même financent cette association. Parce qu'à la limite, que Madame du Colombier, là, épouse l'oiseau. Se fasse le chantre de l'européisme et de l'immigrationnisme. Et du libéralisme tous azimuts, qu'il y ait une forme de congruence idéologique entre tous ces gens-là, dont on connaît l'idéologie, moi ça ne me gêne pas, mais qu'ils le fassent effectivement, et à la limite, je vais vous dire, M. Soros, il le fait avec son argent.
Exactement.
Ce qui est quand même gênant, c'est de voir que vous avez mis même le ministère des armées.
Oui.
Donne son obol.
Ah oui, c'est extraordinaire.
À ce genre de coquille.
Samuel Martin, quels sont les parrains de cette organisation?
Il y a plusieurs ministères des Affaires étrangères européens, mais si on veut en rester à la France, effectivement, le ministère des Armées, la DGRIS, Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie, donne de l'argent à l'ECFR. Le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives également, le ministère de l'économie, des affaires étrangères, et même le bureau du Premier ministre. Alors j'ai interrogé le ministère de la Défense, et on nous a dit que ce financement était un moyen, je cite, de faire rayonner la pensée stratégique. Alors je vous laisse imaginer. Et acculturer la population française aux enjeux liés aux études stratégiques.
Ouais.
Voilà. Et donc pour ça, la
fumée est épaisse.
Ouais, pour 2024 et 2025, ils ont versé 15 000 et 16 000 euros au bureau parisien de l'ECFR, à qui j'ai demandé à quoi avaient servi concrètement ces sommes. J'ai pas eu de réponse. Je les ai relancées, mais on ne m'a pas dit.
Il semble
qu'avec 31 000 euros, on peut faire un certain nombre de choses concrètes. Ouais. Mais là, je ne sais pas.
Mais là, il n'y a pas de concret, comme par hasard. Yves-Marie Sévillard.
Oui, une remarque pour rebondir sur ce que disait notre ami Damien Chalamel sur l'idée que Madame Loiseau, effectivement, a le droit effectivement, à être européiste, immigrationniste, à la rigueur, si c'était pas avec des fonds publics. Il faut noter aussi, au-delà du fait qu'elle ait le droit, c'est l'immense hypocrisie, parce qu'elle se défend de faire de l'ingérence, alors que eux-mêmes, et on le voit, que évidemment la frontière est plus que ténue avec les révélations de Samuel Martin, mais que ce sont les premiers à la Commission européenne à vouloir lutter contre les ingérences étrangères. Souvenez-vous de ce fameux bouclier démocratique mis en place, qui existe, et Nathalie Loiseau a été la présidente de cette commission spéciale pour le bouclier démocratique, pour lutter contre les ingérences étrangères. Oui. Une hypocrisie invraisemblable de ce système qui est inimaginable.
C'est un de ces grands combats, effectivement. Et c'est pour ça que Mathilde Androuet, l'eurodéputée RN, voudrait que ces think tanks aient un statut plus clair et qu'on sache, comme pour des lobbies industriels, à quoi, quelle cause ils servent exactement. Au moins, ce serait plus transparent pour tout le monde.
Et Madame Loiseau vous a répondu, je la cite, « Il n'y a pas de ligne de l'ECFR ». À part d'être pro-européen.
Voilà.
Moi, je suis très pro-européen, mais je ne suis pas européiste.
Il n'y a pas de ligne ECFR, mais quand on tape Orban, j'ai lu ça dans votre article.
Oui, sur le site de l'ECFR, si on tape comme mot-clé Orban, on a plus de 2500 résultats. ce qui fait quand même pas mal.
Il fait quand même un centre d'intérêt,
un centre d'intérêt voilà, particulier.
Avec des démos, c'est l'urbanisation du débat, etc. Un peu comme, comme on connaît en France la lepénisation. Des mots très inquiétants. J'ai évidemment pas vérifié les 2526 résultats occurrences d'Orban, mais je pense pas qu'il y en ait, une qui soit positive.
Alors, oui, ça serait...
Il y en a peut-être une, hein, où, mais je pense que globalement, le ton est extrêmement virulent.
Moi, je suis extrêmement inquiet parce qu'il s'occupait quand même beaucoup de Viktor Orban, qui a disparu donc, de la scène politique, ou presque, qui sera le leader de l'opposition. Déjà, il ne faisait pas beaucoup de rapports, hein, vous nous avez dit, 5 en 5 ans. Donc là, s'il n'y a plus Orban...
En tout cas, Nathalie Loiseau continue de battre le fer, puisqu'elle fait le service après-vente des élections, en tout cas, elle commente l'après-élection.
Samuel Martin, donc je recommande votre article. Vous nous rappelez le titre ?
Alors, le titre, ben je l'ai, oui, je ne l'ai plus sous les yeux.
Le CFR, comme on a Nathalie Loiseau, sert la cause de Soros.
Voilà, merci beaucoup. À lire sur le site Damien Chalamel. De Boulevard Voltaire.
Voilà. Sur le site de Boulevard Voltaire. Merci Samuel Martin, et je recommande vraiment cet article extrêmement intéressant sur on est vraiment au cœur de la machine d'influence.
C'est très intéressant à observer.
De ce petit entre-soi.
Exactement.
Où tout le monde pense pareil, se pousse les uns les autres, se fait financer par des organismes internationaux.
Qui passe.
Voilà, voilà. Et ne fait pas grand-chose apparemment, mais en tout cas mais travaille quand même les idées, on l'a très bien vu à travers votre article et les réponses aussi de Nathalie Loiseau qu'elle a donné à vos questions. Allez, c'est l'heure de notre clin d'œil culture. Il nous reste très peu de temps, 3 minutes seulement. Donc on a une minute chacun pour le clin d'œil culture. Ça va être court. Je vois que Damien Chalamel est très dépité.
Non, pas du tout.
Philippe Charlaise.
Oui, alors moi c'est le
clin d'œil très rapide.
Des rayons et des ombres avec Jean Dujardin et Natsia Gouba. Non, Golubeva, pardon.
Oui.
Carax, donc c'est un film qui se déroule principalement à Paris dans l'entre-deux-guerres et sous l'occupation et qui raconte l'histoire du journaliste collaborationniste Jean Luchaire, fusillé en 1946.
Absolument, on en a déjà... Vous avez aimé ?
Oui, j'ai aimé, oui.
Ouais.
Et moi, j'ai
beau
beaucoup
film.
Aimé aussi. Ouais. Hein, très beau film.
Ouais. Yves-Marie aussi.
C'est très long, hein, ça
Yves-Marie,
dure plus de 3 heures, mais
ouais.
On ne s'ennuie pas, je trouve.
Ah, j'ai l'impression, café polémique, hein, l'extrême-gauche n'a pas aimé.
Ah.
Donc encore une fois,
c'est peut-être pour ça qu'on aime.
C'est peut-être pour ça que vous avez aimé.
Il y a peut-être
Damien
une relation.
Chalamel,
hein. Moi, c'est un clin d'œil passé et futur. Hein. Et
vous avez 20 secondes.
Samedi dernier, il y avait la journée de l'Iliade, hein, cet excellent institut de formation qui lutte contre le grand effacement,
absolument,
qui appelle au réveil des Européens.
Jean-Yves Le Gallou.
Et qui, entre autres, et qui réunissait des jeunes et des moins jeunes, mais beaucoup de jeunes à Paris, sur le thème des libertés chéries, de nos libertés publiques en particulier, qu'il convient de défendre. Voilà, donc c'était samedi dernier. Oui, mais il y aura
le samedi. Le seul journaliste qui donne rendez-vous à des manifestations
à l'année prochaine.
Bon, c'est pas l'année prochaine. Bon. Parfait, restons courtois, je vous donnerai mon petit clin d'œil culture la semaine prochaine parce qu'on n'a plus le temps, restons courtois du vendredi, c'est fini, merci à vous tous dans ce studio, merci à la technique, merci à Samuel Martin qui nous a rejoint, merci chers auditeurs de nous avoir suivis, accompagnés, commentés, heureux d'avoir passé ces 2 petites heures en votre compagnie. Comme Boulevard Voltaire, Radio Courtoisie reste un miracle permanent et fragile qui ne vit que de dons. Aider Radio Courtoisie et aider Boulevard Voltaire dans le climat actuel, c'est un devoir. Nous, on se retrouve le vendredi 24 avril, même heure, même adresse. Restons courtois, 17h30, 19h30 sur Radio Courtoisie avec Boulevard Voltaire et toute la joyeuse bande. Émission exceptionnelle la semaine prochaine. Nous serons en compagnie d'un grand économiste, Christian Saint-Étienne. Nous évoquerons notamment son livre « Trump et nous ». Nous parlerons librement et sans concession des défis de la France et de l'Europe face aux États-Unis de Donald Trump. Ne ratez pas cela, ça sera formidable. Je ne sais pas vous, mais nous, on a déjà hâte.
Ça suffit maintenant. Au revoir.